France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors s'il y a une leçon à retenir de la primaire de la droite et du centre, c'est qu'il faut arrêter les pronostics, les analyses, les sondages. Une seule personne dit vrai en politique en France, c'est le chanteur Renaud. Et oui, hein, depuis le printemps, il annonce la victoire de François Fillon. Il lui apporterait même son soutien. Et qui a été élu hier pour représenter la droite ? Eh ben François Fillon. Voilà, alors seul souci, il paraît que Fillon a fêté sa victoire avec Renaud et vu sa gueule de bois, il va peut-être falloir revoter. On ne sait jamais, on attend le communiqué. En tout cas, eux, ils sont plutôt frais et ce soir, les informés de France Info reçoivent la journaliste Aude Rossigneux. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Serge Grouard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député du Loiret, les Républicains et soutien de François Fillon. Michel Urvois de Ouest-France, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et David Rachine, bonsoir. Vous êtes sénateur-maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen. Et ce soir, quatre débats jouant à l'hypoglouton avec la et si au final les primaires ça fonctionnait. Pendant ce temps-là, Manuel Valls, François Fillon face au Front National. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et à la fin, c'est donc François Fillon qui gagne. À un moment, dans l'après-midi de dimanche, on pensait, non, c'est vrai, on pensait que l'apport des 0,3% de Jean-François Copé avait fait pencher la balance pour le maire de Bordeaux. Et puis, en fait, pas du tout. Hein, voilà. Score écrasant de François Fillon, 66,5% contre 33,5% pour Alain Juppé. Les Républicains rentrent donc dans l'ère du fillonisme. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, le fillonisme. C'est un mélange de libéralisme, hein, où on dit de conservatisme, de déjeuner silencieux du dimanche chez Mamie avec le tic-tac de l'horloge en fond sonore. François Fillon va maintenant s'embarquer pour une longue campagne et tenter de séduire un pays. Alors Fillon, un candidat comme un autre ? Eh bien non, c'est un rebelle, selon un de ses plus proches soutiens, Bruno Retailleau.
Je crois qu'il s'est installé comme un peu un candidat, on l'a vu cette semaine, un peu anti-système. Il n'a pas du tout...
Parce que personne n'est capable de définir le système. Alors si vous pouviez le faire pour nous, Bruno Retailleau, ça nous aiderait dans la compréhension
Le système, le système, c'est, comment dirais-je, une petite élite, pas toute l'élite, c'est pas ce que je veux dire du tout, une sorte de microcosme, comme disait Raymond Barre, qui dès lors qu'on veut secouer le cocotier, vous caricature.
Voilà, Bruno Retailleau ce matin sur France Info. Alors, justement, Serge Grouard, François Fillon, candidat anti-système ?
Il veut casser la baraque.
Oui, mais est-ce que ça en fait un candidat anti-système ?
Il veut la casser pour la reconstruire parce que la France est dans une situation qui est grave. Et je crois que ce qui le motive, et j'en suis sûr, c'est ce constat vraiment de la gravité de la situation et de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de choix. Il faut effectivement... casser la baraque pour la reconstruire.
Quand vous entendez
pas
justement...
de demi-mesure, pas ce que l'on fait depuis des décennies.
Quand vous entendez Bruno Retailleau qui dit candidat anti-système d'une certaine élite, lui qui est élu de Saint-Germain-des-Prés tout de même, qui a été plusieurs fois ministre, premier ministre.
Comme il le dit, il se qualifie de paysan sartois.
Il est élu du 7e arrondissement de Paris.
Oui, mais depuis peu de temps, vous me l'accorderez. Oui. Il a été longtemps maire de Sablé-sur-Sarthe et député de la Sarthe.
Ouais, c'est ça. Ouais. David Rachine, quand vous entendez ça, justement, quand vous entendez la déclaration de Bruno Retailleau, anti-système
D'abord, je rigole, évidemment, et ensuite, j'essaie d'analyser concrètement quel est le parcours de M. Fillon. Il a été à peu près à tous les postes possibles et imaginables dans le cadre de différents gouvernements, de différentes responsabilités publiques. Il était, je le rappelle tout de même, hein, parce qu'on a l'impression, il y a même une fable du lundi matin. La fable du lundi matin à l'UMP, c'est de dire que François Fillon a été empêché de faire ce qu'il voulait faire par Nicolas Sarkozy pendant qu'il était Premier ministre. Un truc complètement dingue.
Il a jamais dit ça, franchement.
Et à un moment donné, on peut pas nous faire... prendre Monsieur Fillon pour le perdre de l'année. Donc il va falloir simplement désenfumer. Il y a une petite euphorie médiatique qui est très légitime d'ailleurs parce que l'UMP, enfin les Républicains ont saturé les médias pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois.
C'était leur primaire.
Maintenant, et c'était pas anormal, bien sûr. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire. Je pense que déjà la bulle va dégonfler là.
Michel Urvois, sur...
En tout cas, il s'est très bien accommodé du système de la primaire.
Oui.
Il l'a même voulu.
Il l'a voulu. Donc, anti-système, là, je pense que dans le cas présent, ça veut rien dire.
Également...
Il n'abuse pas du système, François Fillon, mais il vit avec et il émerge grâce à ce système. Donc, je pense que c'est un non-débat, cette question.
Alors, c'est également très bien accommodé d'être Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, ce qui n'est pas exactement le poste le plus anti-système qu'on puisse imaginer.
Justement, alors il y a quelques jours, un élu sarkozyste rapportait à l'AFP, Fillon, c'est Sarkozy en plus présentable, Aude Rossigneux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ça.
De fait, c'est un peu ça. C'est en tout cas, de fait, il ne s'est pas, en tout cas pendant les 5 ans du mandat de Nicolas Sarkozy, il ne s'est pas particulièrement désolidarisé de son action politique. Donc, on ne peut pas considérer qu'il soit un violent opposant de Nicolas Sarkozy. Et effectivement, plus présentable, ça dépend où on met le curseur du présentable. En tout cas, moins bling-bling, plus traditionnel. Traditionnaliste, diront certains. Ça, certainement, oui.
Serge Moulin.
Oui, le système, parce que c'est vrai que c'est certainement un faux débat. Mais c'est quoi ? C'est une bien-pensance qui impose son mode de pensée à l'ensemble du pays. Et quand le pays n'est pas d'accord avec elle, elle le diabolise. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une suradministration qui étrangle les Français depuis des années et des années. Et quand l'on dit anti-système, c'est de dire il faut donner de l'oxygène, il faut libérer tout ça, parce que sinon, la France va en crever. Elle est solide, la France.
Parce qu'on l'entend beaucoup.
Mais bon, à un moment, il faut faire autrement. Anti-système.
Exemple, c'est... parce que moi, j'ai beaucoup entendu vos représentants hier, et je respecte parfaitement leur déclaration, nous expliquer qu'il y avait trop d'administration, etc. Je comprends tout ça très bien. Mais concrètement, quelles sont les solutions? Parce que c'est les deux points de TVA en plus, c'est la fin de la sécurité sociale.
Je vais répondre sur autant d'exemples que l'on veut. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, où l'on a une agriculture qui était formidable et qui s'étiole, avec des agriculteurs qui n'arrivent plus à en vivre. C'est une situation complètement aberrante. On veut virer, je dis bien virer, tout ce qui est norme surimposée par rapport aux normes européennes. Parce qu'on a le chic en France d'en rajouter des paquets au-dessus des normes européennes.
Vous croyez qu'ils ne vont pas mourir juste avec les normes de l'Union européenne ?
Je donne un exemple.
Vous savez, ils vont mourir aussi à cause des normes de l'Union européenne.
Oui, ça, c'est votre point de vue.
Que M. Fillon a fait voter d'ailleurs depuis une bonne dizaine d'années.
C'est votre point de vue, mais s'il n'y avait pas eu la politique agricole commune, il n'y aurait pas eu la réussite française, notamment dans le domaine de l'agriculture.
On y revient dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Une fillette de 12 ans victime d'une balle perdue pendant son sommeil a bondi en Seine-Saint-Denis. Elle est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle dormait dans sa chambre samedi matin lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air à l'extérieur. D'après la police, l'une des balles aurait traversé le mur de sa chambre avant de la toucher au dos. Le bâtiment est situé dans les quartiers nord de Bondy. L'enquête est en cours. Manuel Valls ne démissionnera pas. Matignon met les points sur les i. Ce soir, il n'y a pas de confrontation possible entre un président et un premier ministre. Il n'y aura jamais de crise institutionnelle. Manuel Valls est donc rentré dans le rang après avoir laissé entendre qu'il pourrait se présenter à la primaire de la gauche. Le premier ministre a longuement déjeuné tout à l'heure avec François Hollande à l'Élysée. Alors qu'a débuté à La Havane une semaine d'hommage après la mort de Fidel Castro, le président élu des États-Unis, Donald Trump, menace de mettre fin au processus de rapprochement avec Cuba. Selon Trump, La Havane doit donner plus de contrepartie en matière de droits de l'homme et d'ouverture économique. Réponse de la Maison-Blanche ce soir, encore aux mains de Barack Obama. Le dégel avec Cuba est bénéfique pour les Américains. Armel Lecléache et Alex Thompson au coude à coude dans le Vendée Globe. Le Français a une toute petite longueur d'avance sur le Gallois, une trentaine de milles seulement. Les deux skippers filent vers l'archipel français de Kerguelen qu'ils devraient aborder par le nord mercredi matin.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de François Fillon, qui a donc remporté cette primaire de la droite et du centre. C'est terminé maintenant, la primaire de la droite et du centre. Maintenant, il va partir pour la campagne présidentielle. Michel Urvoy, justement, campagne présidentielle, ça veut dire s'adresser à tous les Français. Et quand on voit finalement la sociologie des électeurs de François Fillon, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent d'hommes de plus de 65 ans, le plus souvent retraités, appartement à la classe moyenne ou voire supérieure. On se demande où sont les classes populaires.
C'est une vraie difficulté, qui est inhérente d'ailleurs au système de la primaire. François Fillon est élu avec à peu près 3 millions de voix qui sont effectivement caractérisées par ce que vous venez de dire. Et toute la difficulté pour lui, ça va être de passer de cet électorat-là à 10 millions, qui est le seuil de qualification pour un deuxième tour, et 18 ou 20 millions, qui est le niveau pour être élu président de la République. Cet électorat a des caractéristiques sociologiques effectivement bien précises. Et il y en a une, entre autres, c'est, bon, il ne faut pas réduire le débat à cela, mais c'est le poids de valeurs chrétiennes, qui sont assumées, revendiquées par François Fillon. Alors, ce n'est pas du tout une critique. Ce que je veux dire, c'est que appliquer ces valeurs-là, ça veut dire des choses, par exemple, en matière de dépenses publiques, ça veut dire en matière de solidarité, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'accueil des migrants, dans tout un tas de secteurs. Et je pense que ça va être assez difficile de concilier cela avec sa politique économique.
Alors,
et de
c'est ça la question. C'est vrai que la question que tout le monde se pose, Serge Gouard, c'est est-ce que François Fillon, qui a fait un programme, c'est vrai pour la primaire hein, de la droite et du centre, un programme qualifié par lui-même de dur, est-ce qu'il va, à votre avis, garder ce même programme pour séduire une plus grande majorité de Français, voire au-delà de la droite? Est-ce qu'il peut garder d'ailleurs ce même programme?
Il n'a pas fait un programme pour la primaire.
Ah d'accord, donc ça sera le même.
Il a fait un programme pour la France. Ça, c'est sa conviction profonde. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation de déliquescence. Il faut redresser la barre et vite. Et pour ça, il faut un choc. Voilà. Maintenant, donc, pour le connaître, il va rester sur son cap. Et il est nécessaire de rester sur le cap au regard, d'ailleurs, des gens qui lui ont fait confiance. Il y a une confiance qui s'est créée et il y a, je pense, un espoir qui est en train de naître. Donc, de commencer à rentrer dans des petits schémas d'arrangement entre amis.
C'est pas un petit schéma quand même.
C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Donc, je vous le dis, il gardera le cap. D'ailleurs, il l'a annoncé dimanche. Ça ne veut pas dire que sur un certain nombre de sujets, nous n'allons pas continuer à travailler. On n'a pas terminé. Il y a des sujets d'ailleurs qui malheureusement ne sont pas apparus dans tous les débats de la primaire, dans les quatre débats. Des sujets qui ne sont pas apparus. Nous, on le regrette. On voulait les faire apparaître. Vos collègues des chaînes qui ont organisé ces débats ne les ont pas inscrits
comme thématique.
Oui, par exemple, l'environnement, parce que c'est un thème majeur, c'est l'un des défis majeurs de ce siècle.
Ah, on le voit en effet, puisque c'est la dernière proposition de François Fillon.
Pour avoir porté et rédigé ce projet, j'étais franchement presque déçu que l'on n'ait quasiment pas un mot sur l'environnement. C'est un exemple, il y en a d'autres.
Mais vous dites qu'il a fait un programme pour la France. Moi, je veux bien entendre qu'il a fait un programme pour la France, sauf que, de fait, les gens qui l'ont entendu et qui l'ont suivi, ce sont des retraités, des hommes retraités plutôt aisés. La France, c'est pas des hommes retraités plutôt aisés. Donc, comment il va s'adresser à l'autre partie de la population? Comment il va s'adresser, par exemple, aux plus démunis? Laurent Wauquiez, alors je sais qu'en ce moment, il est plus proche de la porte que de l'augmentation, mais en ce moment, il a quand même sur un tweet dit « il faudra quand même dire que notre programme ne s'adresse pas qu'aux plus riches ». Et effectivement, comment vous allez le dire? C'est une vraie question que je vous pose.
Et après, on passera à notre débat, mais allez-y.
Mais d'abord, vous partez d'un postulat que j'entends. Ce sont des hommes plutôt âgés qui ont voté Fillon. Moi, j'ai fait...
Et plutôt riches.
Alors, ça, je peux vous dire que non. Parce que j'ai fait une tournée des bureaux de vote, et ce n'est pas le profil que j'ai vu dans les bureaux de vote. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces analyses. Elles ont peut-être
on le voit dans les régions, qu'on ne plus voter.
Moi, je dis simplement que ce n'est pas ce que j'ai vu. Voilà, après, je n'ai pas la science infuse.
Ce sont des enquêtes qui ont caractérisé le profil.
Je ne veux pas les contester facilement comme ça, ça serait trop facile. Mais je les nuance fortement et je dis qu'ils s'adressent à tous, que là, il y a une primaire, où bien sûr que c'est un socle qui vote. Et que maintenant, nous allons passer dans un...
Je vous dis qu'il perdrait quelque part
son âme si l'on venait à donner cette impression qui serait délétère de vouloir maintenant changer le programme. Et comme c'est sa conviction profonde, je peux vous dire qu'il ne changera pas. Ça ne veut pas dire de ne pas l'ouvrir.
Oui. Alors, David Rachine.
La réalité de ce projet, on pourrait en discuter, c'est que c'est un projet qui va encore plus loin que ce qui a été fait dans les 20 dernières années dans le domaine de l'ultralibéralisme. C'est tellement vrai d'ailleurs que ceux qui en parlent le mieux de ce projet, ce sont vos propres amis, à commencer d'ailleurs par Monsieur Madelin, qui nous explique qu'il s'agit d'un libéralisme antisocial, un programme qui en matière de purge est le plus abouti. C'est ainsi d'ailleurs que vous proposez de supprimer 500 000 fonctionnaires, sans augmenter donc ni les moyens de la police, ni les moyens de la gendarmerie, ni notre armée, ni nos infirmiers, ni dans les hôpitaux, les services publics,
vous
etc.
Vous augmentez tout partout.
Quand Monsieur Madelin nous explique que vous allez voler aux pauvres pour donner aux riches, c'est un petit peu ce qu'on constate dans ce projet. Parce qu'encore une fois, quand on parle de suppression de la sécurité sociale quasiment, ou en tout cas de réserver la sécurité sécurité sociale.
Écoutez, je cite, avoir un débat sérieux.
Je
parce
cite
que
François Fillon, monsieur le député.
J'aurais dû vous amener le projet, j'aurais dû vous l'offrir pour que vous puissiez le lire attentivement.
Je cite François Fillon. Ce qui serait bien,
vous ne citez pas François Fillon.
S'il vous plaît. Ce qui serait pratique, c'est qu'on puisse écouter.
Citez Marine Le Pen.
Ce qui serait pratique, c'est qu'on puisse écouter parce que comme ça, ça me permettrait d'éviter de vous interrompre ensuite.
Allez-y, David.
Je n'hésiterai pas à faire.
Je n'en doute pas.
Allez-y.
Limiter donc la sécurité sociale aux affections graves et de longue durée, je cite François Fillon lors d'un débat, qui nous explique donc que le reste relèvera des mutuelles. Les mutuelles vont donc exploser en termes de prix et les plus fragiles ne pourront évidemment pas se payer de soins. Vous avez d'ailleurs, quand vous étiez au gouvernement, mais la gauche l'a fait aussi, dérembourser massivement les médicaments dans le cadre de la cure d'austérité que proposait l'Union européenne et que vous avez toujours soutenu. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté de ce côté-là. Monsieur Guénot lui-même nous explique aujourd'hui que les classes moyennes et populaires vont être totalement abandonnées. C'est ce qu'on lit, c'est vrai, quand on regarde projet qu'est le vôtre. Et moi, je m'en inquiète terriblement. Je pense qu'il y a des millions de Français, particulièrement, c'est vrai, des classes populaires et des classes moyennes qui sont inquiètes, bien sûr.
Est-ce que vous ne voyez pas là, justement...
On connaît la rhétorique qui est toujours de jouer sur la peur.
Du Front National.
Mais bien sûr, c'est la rhétorique, d'ailleurs, vous l'entendez, je ne l'invente pas, elle est là. Mais moi, j'ai simplement envie de vous dire... Mais vous proposez quoi? Vous êtes toujours, depuis des décennies, dans la critique. Mais plein de choses, c'est quoi?
Énormément de choses. Le patriotisme économique, l'État stratège, le rétablissement des frontières, énormément de choses. On pourrait en discuter.
On a aujourd'hui une
dette... Ce contre quoi, d'ailleurs, votre candidat lutte, puisqu'il a réaffirmé il n'y a pas très longtemps qu'il était un leurre de rétablir les frontières. Alors, il dit qu'il va surveiller l'immigration tout en ne rétablissant pas les frontières, ce qui paraît complètement délirant, d'ailleurs.
On va en parler dans un instant de ce rapport, François Fillon. Front National, on voit que vous n'êtes pas du tout d'accord, je crois, c'est ça, si on peut synthétiser un petit peu les quelques secondes qui viennent de se passer. Allez, l'info à 20h20, et ben on va retrouver Pierrick Bonneau.
C'est l'une des dernières promesses du quinquennat pour Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale annonce la création de 450 postes dans les lycées les plus en difficulté à la rentrée prochaine, la rentrée 2017. Elle répond ainsi à la mobilisation des enseignants de l'éducation prioritaire, inquiets de leur avenir. La ministre était en déplacement à Marseille aujourd'hui. Il y a 10 jours, plusieurs centaines de professeurs et élèves de lycées en zone prioritaire ont manifesté, notamment à Paris et à Marseille. François Fillon et Angela Merkel ont convenu de se rencontrer courant janvier à Berlin. C'est en tout cas ce que croit savoir l'entourage du gagnant de la primaire à droite. La chancelière allemande lui aurait téléphoné dans la journée pour le féliciter de sa victoire écrasante. Selon les résultats définitifs qui nous sont parvenus ce soir, Fillon l'emporte avec 66,5% des 4 380 000 votants. Elle détournait l'argent de ses clients. Une avocate de Bordeaux, radiée du barreau, condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour abus de confiance. Selon nos confrères de France Bleu Gironde, elle a détourné plus de 200 000 euros à certains de ses clients. L'emprunt d'une mère analphabète, les indemnités d'une salariée licenciée ou encore la part du divorce obtenue par l'une de ses clientes. Et puis des dizaines de civils ont perdu la vie ces dernières heures et des milliers d'entre eux fuient en ce moment Alep. La France exprime sa profonde de préoccupation face à la situation dans la ville syrienne où l'armée du régime et ses alliés, notamment la Russie, se sont emparés d'une partie des quartiers est tenus par les rebelles.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir le journaliste Aude Rossigneux, Serge Grouard, député du Loiret, Les Républicains, également Michel Hurvoy de Ouest-France et David Rachine, sénateur maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen. François Fillon, le candidat inattendu de la droite qui revient du diable Vauvert et qui est également le candidat que l'on n'attendait pas au Front National. Depuis la réunion où Marine Le Pen développe son programme de préférence Pareo, la patronne du FN a parlé de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy comme celui de la casse sociale. Mais contrairement à l'ancien président de la République ou Alain Juppé, François Fillon ne constitue pas un véritable répulsif pour les anciens électeurs des Républicains passés au Front National. Et lui-même n'hésite jamais à mettre un petit tacle au parti frontiste, François Fillon.
On comprend l'étonnement de la gauche qui ne tolère qu'une seule droite, celle qui baisse les yeux sous ses leçons de morale. On comprend la nervosité de la firme Le Pen, elle qui veut une droite complexée et en miettes. Eh bien non, nous sommes libres, nous sommes fiers de ce que nous sommes et de ce que nous voulons.
Voilà, François Fillon, lors de son dernier meeting des primaires à Paris, David Rachine, sur les choix de société, est-ce que vous considérez François Fillon comme une menace ?
Non, non, absolument pas. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, je crois que François Fillon a fait la démonstration de son incapacité à être ce qu'il prétend être aujourd'hui. Encore une fois, dans le domaine de la laïcité, par exemple, il a été le premier Premier ministre français à aller inaugurer une mosquée à Argenteuil. Permettez-moi de vous dire que pour ce qui concerne les valeurs traditionnelles et les valeurs françaises, on en est quand même loin. Il a été celui qui a fait cette fameuse circulaire, souvenez-vous, en 2004, je crois, qui permettait, en fonction de la religion d'un certain nombre de gens, de déplacer des dates d'examen. Enfin, je veux dire... En fait, on a affaire à une droite, moi je vais vous dire ce que on a affaire à une droite qui, comme d'habitude en période préélectorale ou électorale, fait comme Sarkozy en 2007, montre un peu les muscles, bombe un peu le torse, et puis fait la politique de la gauche une fois au pouvoir. Et d'ailleurs... Le gouvernement de François Fillon, c'était quoi? C'était un gouvernement avec Frédéric Mitterrand. Ça n'avait pas l'air de gêner beaucoup M. Fillon au moment des valeurs.
Ça n'a rien à voir.
C'était un gouvernement avec de la gauche, Mme Amara et tous les gens qu'on a vus.
Ça n'a rien à voir.
Dans le gouvernement de M. Fillon à l'époque, ça a tout à voir.
Mme Amara qui est le
problème. Parce que s'il avait été...
Elle
n'est pas droite, elle est de gauche.
Ah, d'accord.
Voilà, dans un autre style.
Ah oui, d'accord, pardon.
C'est
d'accord,
vrai que ça n'a rien à voir avec le cas Frédéric Mitterrand, nous sommes d'accord. Qui lui a cité de gauche d'ailleurs. Bon, mais dans tous ces cas-là, on voit bien que François Fillon a tout trahi, en fait, et particulièrement la droite. Donc, qu'il se drape aujourd'hui de tout ça, ça me fait rire, moi.
Voilà. Michel Urvois.
Je ne vais pas faire de procès d'intention. François Fillon a été choisi sur une cohérence. Sur une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Et sur une cohérence entre son projet et son électorat. Je reviens toujours au cœur des 3 millions d'électeurs. Il peut convaincre. Je pense qu'il est un concurrent redoutable pour le Front National s'il tient sa promesse, s'il tient son engagement. Parce qu'il a été. Il a quelque chose qui a joué fortement, c'est qu'il a convaincu de sa capacité qu'il allait, comme vous rappeliez tout à l'heure, casser la baraque. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a peut-être des enfants sous la baraque. Mais bon, mais il a convaincu là-dessus qu'il allait être capable de le faire, qu'il allait exercer son pouvoir. Ça, c'est très fort. C'est un des ressorts du Front National. Les élus ne tiennent pas leurs promesses. Lui dit, je vais les tenir. Voilà ce que je veux faire.
Ils le disent tous à chaque fois, d'ailleurs.
Bon, mais ça ne fonctionnera évidemment que s'il les tient, que s'il est capable de s'adresser à un électorat plus modeste, je reviens à la conversation antérieure, et que s'il avance sur un certain nombre de thèmes qui n'ont pas été traités.
David Rachine, on a vu, c'est vrai que le Front National commentait assez peu la primaire des Républicains, sauf quand François Fillon est passé en tête. C'est pour ça qu'à un moment, tout le monde s'est posé cette question.
Non.
Quand François Fillon est passé en tête, d'un coup, on a vu des cadres de chez vous commencer à...
Vous avez raison de dire qu'on est resté en retrait de ce débat qui ne nous concernait pas. Il y avait un rendez-vous démocratique qui était le leur et nous n'avions pas à le commenter, sauf quand François Fillon a été choisi. Alors à ce moment-là, effectivement,
au premier tour.
Alors évidemment, mais non, pas du tout. C'est pas pareil. C'est du pareil au même. Ces gens-là sont parfaitement interchangeables de notre point de vue. Il y en a qui sont pour l'Union européenne, il y en a qui sont pour énormément d'Union européenne, il y en a qui sont pour l'immigration, il y en a d'autres qui sont pour beaucoup d'immigration. Pardonnez-moi, mais sous le temps de François Fillon, on faisait rentrer en France 200 000 étrangers dans notre pays.
Tout de même. Juste. Alors
sur la manière dont Monsieur Rachline présente les choses, toujours la même rhétorique et toujours le regard dans le rétroviseur. Vous n'avez parlé que du passé, mais j'ai envie de vous demander est-ce que l'avenir de la France vous intéresse?
Oui, beaucoup.
J'ai pas l'impression. Vous êtes dans la pure critique sans aucune proposition depuis le début de ce débat et vous êtes dans le constat très contestable d'ailleurs. Vous avez dit entre nous sur cette inauguration de mosquées. Je sais que vous avez une obsession forte sur la question des mosquées, y compris dans votre ville.
C'était une entrave à la laïcité, simplement.
Et chez vous, est-ce qu'il y aurait éventuellement une mosquée qui aurait été ouverte récemment?
Mais c'est pas le sujet. Moi, je suis pas allé l'inaugurer.
Non seulement je suis pas allé l'inaugurer,
mais en plus c'est le maire des Républicains qui m'a précédé, qui l'a fait ouvrir.
Dans la manière de désinformer du Front National, on en a un formidable exemple là, puisque en même temps que vous rappeliez cette ouverture, inauguration, je le rappelle, il y avait la loi d'interdiction du voile intégral sur la voie publique. Mais ça, vous l'oubliez parce que, évidemment, ça vous dérange.
Super bien respecté.
Ça vous gêne.
C'est vrai qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy n'avait pas reçu le soutien du Front National.
Mais on ne va pas...
Moi, je pense aux gens qui nous écoutent et qui nous font l'amitié de nous regarder. On ne va pas passer son temps à analyser l'histoire. Il y a des historiens qui le feront. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est l'avenir de ce pays parce qu'il est en danger. Mais je sais, vous vivez là-dessus.
Serge Gouin,
c'est votre fond de commerce. Je vous demande quels sont les vôtres.
On ne voudrait pas qu'ils dupent.
Quels sont vos actes et quels sont vos projets?
Ça va se terminer.
J'aimerais le savoir, mais on ne le sait pas. C'est toujours la même méthode.
Ça doit se terminer. Les Français connaissent très bien notre projet.
Ça doit se terminer. Merci à David Rachin d'être passé ce soir aux informés de France Info. Nous, on va continuer à parler, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'échiquier politique. Avec la gauche, les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Aujourd'hui, j'ai partagé mes photos sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai partagé ma musique. Et parfois, je partage ma voiture. Mais demain, j'ai aussi envie de partager autre chose, de partager plus. Et si je partageais aussi mon pouvoir en allant donner mon sang?
Comme Adrien et des millions d'autres Français, donnez votre sang et soyez au cœur du partage. Aux côtés des 10 000 collaboratrices et collaborateurs de l'établissement français du sang, engagez-vous pour sauver des vies. 1 million de malades chaque année ont besoin de votre sang. Nous transformons vos dons en vie.
Partagez votre pouvoir. Donnez votre sang.
Établissement français du sang, bien plus que le don de sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Mercedes-Benz.
Et au fait, Cyril, pour ta prochaine voiture de fonction, tu as choisi ?
Oui, je vais sûrement prendre une...
Pardon, je vous interromps. Mais sinon, je sens que vous allez regretter d'avoir choisi une simple voiture de fonction quand vous auriez pu rouler en Mercedes. Vous savez, Cyril, la gamme Mercedes-Benz est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. La Mercedes classe A, par exemple, est à partir de 23 950 euros. Cela étant dit, je vous laisse terminer.
Une Mercedes.
Ah, on se sent tout de suite mieux.
Prix conseillé pour une classe A, 160 BM, 6 intuition.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Beau au nord et gris au sud demain. Entre le sud-ouest et le Lyonnais, ce sera très encombré. On retrouvera quelques éclaircies l'après-midi. Entre le Roussillon, les Cévennes, la vallée du Rhône, l'ouest de la Provence, un ciel gris avec un peu de pluie. En revanche, sur les Pyrénées, les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse, on profitera du soleil. Le vent sera fort en Corse jusqu'à 100 km à l'heure. Et puis sur les régions du nord, de la Vendée et de la Bretagne, vers le Pas-de-Calais, le nord-est, en passant par la région parisienne, ce sera du soleil, du vent jusqu'à 50 km à l'heure. Côté thermomètre, la baisse va se poursuivre avec des gelées au nord le matin et puis l'après-midi seulement 2 degrés à Mulhouse, 3 à Lille, 5 à Paris et à Rennes, 6 degrés à Lyon, 13 degrés pour Montauban, pour Montpellier et encore 15 degrés à Ajaccio.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et la fois à 20h30, c'est Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre était il y a quelques instants sur le plateau du 20h de France 2. François Fillon qui se revendique aussi bien de Margaret Thatcher que de Gerhard Schröder pour, dit-il, remettre le pays debout. Une confirmation au cours de cette interview, pas d'inflexion de son programme d'ici la présidentielle. Hier, François Fillon a recueilli les suffrages de plus de 2 900 000 électeurs, soit 66,5% des voix, plus de 4 380 000 personnes ont participé au deuxième tour de cette primaire. Il ne peut y avoir, il n'y aura jamais de crise institutionnelle. L'entourage de Manuel Valls désamorce la crise qui couvait à gauche. Depuis les propos du Premier ministre au journal du dimanche et son envie de primaire socialiste, Manuel Valls et François Hollande se sont entretenus à la mi-journée pendant 2 bonnes heures. À la sortie, l'Élysée a fait savoir que le déjeuner avait été cordial et studieux. Quant à Manuel Valls, il soulignait être le chef du gouvernement et avoir le sens du gouvernement. Le Premier ministre ne démissionne pas, il vient d'ailleurs d'arriver à Tunis pour une visite officielle. En Russie, une émission de télé-réalité du genre Danse avec les stars a dérapé samedi soir. Une patineuse vedette, championne olympique en 2006, est arrivée sur la glace avec son partenaire, tous deux habillés en tenue de déporté juif avec une étoile jaune sur la poitrine. Les réseaux sociaux crient au scandale. En Russie, le Kremlin prend la défense de la patineuse vedette qui n'est autre que la femme du porte-parole de Vladimir Poutine à Moscou. Jean-Didier Revoy.
Je suis fier de ma femme, voilà tout ce que je peux dire, et je ne crois pas que cela soit une question qui relève du Kremlin. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, à propos du numéro de sa femme, Tatiana Navka, dans une émission de télé-réalité. Une façon de faire retomber le scandale après la prestation de son épouse sur la première chaîne de télévision russe, qui a scandalisé nombre d'internautes et de téléspectateurs. Il lui reproche d'avoir interprété, sourire aux lèvres, une chorégraphie inspirée des camps de la mort, l'étoile jaune qu'elle arborait sur son pyjama rayé, ne laissant planer aucun doute. Des accusations que celle qui fut élue plus belle patineuse du monde en 2005 relève fièrement, expliquant qu'elle voulait rendre hommage au film de l'italien Roberto Benigni sur les camps, La vie est belle, dont la musique sur laquelle elle a dansé était tirée. Si les jeunes peuvent en apprendre davantage sur les camps et le film La vie est belle, alors nous avons atteint notre objectif. Question tact. En revanche, Tatiana Navka a encore quelques progrès à faire. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Info.
Bientôt 20h33 sur France Info, le retour des informés avec Jean-Mathieu Pernin et ses débatteurs.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les informés également sur le canal 27 de la TNT, tel un Houdini. Voilà, du service public, hein. Nous avons sorti de notre manche une nouvelle invitée qui a déjà pris ses aises autour de la table des informés de France Info, c'est Nadège Abou-Mongoli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et vous rejoignez donc ce soir autour de la table la journaliste Aude Rossigneux, également Serge Grouard, député du Loiret, Les Républicains et soutien de François Fillon, et également Michel Hervoy de Ouest-France. Difficile de trouver une personne travaillant dans les médias pour être contre le processus des primaires. Alors, rien à voir avec la démocratie, non, ça nous assure simplement des sujets presque tout faits. Comme on dit dans la presse, c'est bon pour toi, Coco. Décrié par certains, les primaires de droite ont pourtant montré qu'elles permettaient des surprises. Alors la vie politique française peut-être désormais s'en priver. On en parle à 20h45, car avant nous allons parler de la gauche et de son état santé. Bon alors, ça sert à rien de tergiverser, c'est un peu le foutoir. Les militants du PCF se sont prononcés pour un soutien à Jean-Luc Mélenchon. Le Parti radical de gauche a désigné ce week-end Sylvia Pinel, et oui, pour la représenter en 2017. En tout, 11 candidats se sont déclarés à gauche, en dehors ou dans la primaire. Comment réunir tout ce petit monde? Eh bien, si la gauche perd en 2017, elle pourra au moins lancer un jeu de société hein, à ce sujet. Pourtant, aujourd'hui, tous les regards étaient focalisés sur le déjeuner entre François Hollande et Manuel Valls, ce dernier se déclarant prêt à aller au combat. Alors, avant de parler de l'exécutif, petite prise de température à gauche avec hier cet échange sur France 2 entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Luc Mélenchon, arbitré par Laurent Delahousse.
Mélenchon, Daniel Cohn-Bendit aimerait vous poser une question, il va vous la poser tout de suite.
Jean-Luc. Si tu te présentes à la primaire, tu peux
Monsieur
la gagner.
Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, oh, nous ne jouons pas à la comédie.
Va te faire voir.
Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît.
Je n'ai pas de question, je ne fais pas
très
du,
bien. Merci, du touche-touche comme ça. C'est très aimable.
On s'est toujours tutoyé, s'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix.
Voilà, une belle ambiance donc hier sur le plateau de France 2 entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Christophe Cambadélis. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est marrant, pourquoi on confond les deux comme ça? Nadège Abou-Mongoli, je sais que chose à voir. Justement, Jean-Christophe Cambadélis, Nadège Abou-Mongoli, passe son temps à appeler au rassemblement et on a l'impression que plus il le fait, moins c'est le cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus aucun rassemblement n'est possible à gauche?
On espère qu'il est toujours possible, mais en tout cas, c'est son rôle de l'appeler de ses voeux à tout moment, et surtout en ce moment. Parce que moi, je pense qu'en dehors de cela, et surtout face au candidat qui a été désigné hier par la droite, on est en droit et on est en devoir même de se rassembler et de faire le minimum de vagues possible face à un candidat qui avance sur un projet de casse sociale, qui avance aussi sur une sorte de revanche sur les valeurs, une revanche morale. En tout cas, c'est des valeurs qui sont pas les nôtres, c'est un projet qui est pas le nôtre. Et donc Jean-Christophe Cambadélis a raison et l'ensemble des socialistes, à un moment donné, devront faire de même.
Mais vous avez vu, il y a des nouveaux candidats. Il y a Sylvia Pinel, même au PRG, qui est quand même un soutien historique du PS, qui programme sur l'indépendance avec une candidate. Vous avez Les Verts, vous avez Emmanuel Macron d'un côté, Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression que ça prend l'eau de tous les côtés.
Chacun a sa logique à l'égard de la primaire. Jean-Luc Mélenchon, ça fait très longtemps qu'il estime que c'est pas le cadre dans lequel il veut s'investir parce que il n'a pas envie de suivre la règle qui consiste à suivre le candidat qui aura été désigné. Donc il est dans sa logique. Et puis il est dans une logique de confrontation également par rapport à la gauche du gouvernement. Donc à la limite, même si c'est déplorable, il est dans une logique. C'est un peu moins logique par rapport à Sylvia Pinel.
Est-ce que Claude Bartolone n'a pas mis un peu d'huile sur le feu ce week-end en disant j'aimerais bien voir Manuel Valls et François Hollande s'affronter aux primaires?
C'est pas que c'est un euphémisme. Oui. On a mis beaucoup d'huile sur le feu, ça n'a pas été une déclaration heureuse. Je pense que l'ensemble des leaders socialistes l'ont dénoncé de ce point de vue-là. Martine Aubry a exprimé son mécontentement, parce qu'en plus, pour le coup, vous parliez tout à l'heure de rassemblement, même le moment s'y prêtait pas. C'était quand même un moment de débat avec l'ensemble des acteurs de la gauche, et c'était pas le moment de mettre de l'huile sur le feu avec une position qui, du point de vue institutionnel, est complètement irresponsable.
Alors, Aude Rossigneau, on a vu un déjeuner, enfin, il y a eu un déjeuner, hein, comme tous les lundis d'ailleurs, entre le Premier ministre et le Président de la République. Ce déjeuner avait une allure particulière suite à l'interview du Premier ministre dans le journal du dimanche. On a même pensé à un moment peut-être à un remaniement, hein, ça courait, on l'entendait, François Hollande aurait peut-être voulu mettre fin au terme, mettre fin au mandat, pardon, de Manuel Valls. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a quand même une tension au sommet de l'État qui est palpable aujourd'hui.
Ah ben, c'est une tension énorme. Et l'interview qu'a donnée Manuel Valls dans le JDD, à ce titre, était inédite. C'est-à-dire le fait que le Premier ministre en exercice dise je me tâte pour y aller et je prendrai mes responsabilités, alors que il y a une primaire qui est organisée et que c'est globalement un peu un secret de polichinelle que François Hollande a l'intention d'y aller, c'est du jamais vu. Alors, il semblerait que le déjeuner ait été cordial et studieux.
Tout à fait, ça a été le communiqué à la sortie.
Voilà, c'est ce que dit le communiqué. Je pense qu'au menu, quand même, pour Manuel Valls, il y a eu quelques chapeaux à manger, quelques couleuvres, quoi. On peut pas l'exclure totalement.
Michel Urvois,
on est au bord de la folie institutionnelle. Exactement, oui. Parce que, enfin, le numéro 3 du pouvoir, Claude Bartolone, qui pousse le numéro 2 du pouvoir à se présenter contre le numéro 1, enfin, je n'ai pas d'autre mot pour qualifier ça. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut nous raconter à la sortie de ce déjeuner...
C'est parce que le numéro 4 est avec François Fillon.
Voilà. Mais moi, je trouve que la gauche a quand même une opportunité extraordinaire. Elle a la chance d'avoir François Fillon. Voilà. François Fillon devrait quand même être un encouragement à vous rassembler, à vous regrouper, à faire front commun. Enfin, je ne sais pas. Si avec la brillante élection qui a été la sienne, s'il n'arrive pas à provoquer ça chez vous, c'est désespérant.
Et Nadia Mongoli, vous voulez répondre à Michel Urvois?
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Oui, bien sûr.
Au-delà de la question programmatique de François Fillon, il y a aussi même le succès de la primaire de la droite. Donc il faut c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on a mis sur les rails, qui a formidablement bien marché pour François Fillon, qui ça lui donne une légitimité très forte. Donc en retour, on a quand même aussi une responsabilité par rapport à ça.
Alors, c'est le cas, on va vous entendre dans un instant, puisque vous savez, à France Info, on est très millimétré. Hein. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
François Fillon s'engage à ce que les plus modestes ne soient pas moins bien remboursés par la Sécurité sociale s'il est élu. Le candidat de la droite pour 2017 était l'invité de nos confrères de France 2 et il a pris un engagement. Toutes les personnes qui doivent être protégées seront autant remboursées s'il est président qu'aujourd'hui. Une fillette de 12 ans, victime d'une balle perdue pendant son sommeil à Bondy en Seine-Saint-Denis. Elle est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle dormait dans sa chambre samedi matin lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air. D'après la police, l'une des balles aurait traversé le mur de sa chambre avant de la toucher au dos. Un cas de grippe aviaire détecté ce week-end dans le Pas-de-Calais sur un canard sauvage, moins inquiétant que dans un élevage et pas de risque de transmission à l'homme a priori. La France était justement sur le point de récupérer le statut de zone indemne vis-à-vis de l'épidémie, statut indispensable pour les exportations hors Union européenne de poulet et de foie gras, statut que la France devrait tout de même pouvoir récupérer le 3 décembre prochain. Barack Obama n'assistera pas aux funérailles de Fidel Castro dimanche, annonce de la Maison-Blanche ce soir. C'est pourtant le président américain en exercice qui a initié le rapprochement avec Cuba. Mais ni Barack Obama ni son vice-président Joe Biden ne feront le déplacement. Et puis aux États-Unis, toujours aucune piste n'est écartée. Dans l'Ohio, un homme a blessé 9 passants avec une voiture et un couteau de boucher tout à l'heure sur le campus de Columbus. Il pourrait s'agir d'un acte terroriste.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce qui se passe à gauche, hein, parce qu'il s'en est passé beaucoup de choses aussi à gauche ce week-end. Alors plus discret hein, que les Républicains, mais tout de même avec ce climax hein, atteint aujourd'hui, avec ce déjeuner entre François Hollande et Manuel Valls. Manuel Valls a dit qu'il ne démissionnerait pas, hein, qu'il avait le sens de l'État et donc qu'il accompagnerait François Hollande jusqu'où, on ne sait pas, peut-être jusqu'à mardi, hein, sûrement. Serge Grouard, quand vous entendez Nadège Abongoli qui vous dit aujourd'hui, François Fillon, candidat casse sociale, libéral. Qu'est-ce que vous répondez justement à ça?
Je voudrais d'abord l'inciter à la modestie. Parce que quand on voit la situation de la France aujourd'hui et l'état dans lequel va se trouver le pays l'année prochaine, c'est dramatique. Donc quand on va laisser 6 millions de chômeurs, 2 millions de jeunes qui n'ont rien, qui sont sans emploi, sans formation, qui ne sont pas à l'école, quand on a une dette qui ne date pas d'aujourd'hui.
Mais quand on en parler d'ailleurs.
Oui, hein. Oui. Quand on a une dette qui a augmenté de plusieurs centaines de milliards, qui arrive à plus de 2000 milliards aujourd'hui, pratiquement l'équivalent de la richesse nationale. Je crois qu'on doit faire une petite introspection et se demander ce que l'on a raté. Et là, j'ajoute que le spectacle que l'on voit dans cette situation difficile, plus que difficile, c'est un euphémisme de la France, mais ce spectacle invraisemblable donné par le sommet du pouvoir, mais enfin, à quoi pense-t-on ? Je dirais que retrouvons de la décence. Et moi, je vais vous dire, ça me navre. Ça me navre, parce que le spectacle politique qui est donné à nos concitoyens est terrible. J'invite le président de la République, le Premier ministre, à reprendre leurs esprits, à se hisser au niveau de l'enjeu qui est celui d'aujourd'hui. Enfin, leurs égos, on s'en fout. On en a marre de tout ça. Et ça dure, et ça dure depuis trop longtemps.
C'est pas nouveau quand même l'égo en politique.
Mais d'ailleurs, votre présence quelque part est courageuse sur ce plateau parce que je. Mais oui, évidemment, parce que de défendre une situation comme celle-là,
elle est
indéfendable. Et d'ailleurs, vous le dites avec de l'honnêteté. Donc, je salue cela. Mais enfin, c'est vraiment, oui,
c'est
j'ai
compliqué.
Pas d'autre mot que consternant. Vous imaginez, moi qui suis un gaulliste dans l'âme, vous imaginez à l'époque de Gaulle, et je pense à un grand homme de gauche.
Il aurait démissionné.
Pierre Mendès-France. Mais que ceux qui nous dirigent pensent à ces hommes-là.
Alors, justement.
C'est un peu de dignité, quoi, bon
alors,
sens.
Oui, mais il y a toujours eu quand même, on peut pas dire à droite comme à gauche, des problèmes d'égo.
Mais c'est vrai.
Il y a toujours eu les problèmes d'égo, je pense que c'est propre à la politique.
Égo et féminité.
Malheureusement, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui le regrettent, mais dans la situation actuelle, c'est juste consternant.
Nadège Amangli, est-ce que finalement aussi beaucoup de gens ont dit, avec la victoire de François Fillon, c'est le retour d'un clivage droite-gauche, véritablement? Est-ce que vous avez ce sentiment aussi? C'est-à-dire que avant, on se disait à droite sans être véritablement à droite, à gauche sans être véritablement à gauche. Est-ce que vous avez l'impression que là, de nouveau, on retrouve ce clivage finalement qui a fait la politique française depuis des années?
En tout cas, on retrouve une clarification entre différents types de projets, aussi bien du point de vue économique que du point de vue sociétal. Et puis, j'ai envie de dire que ce clivage a été brouillé par un certain nombre de discours. Tout à l'heure, vous receviez David Rachline, qui répète à l'envi UMPS, droite et gauche, pareil, même constat. Et puis, il y a aussi la candidature d'Emmanuel Macron, qui aussi était en situation de brouiller ce clivage. Oui. Donc là, effectivement, avec un candidat qui assume, qui avance en assumant, aujourd'hui, son projet, c'est clair que le clivage droite-gauche est réactivé. Et je pense justement que la... Les débats qui entourent finalement le projet aujourd'hui, qu'on découvre un peu plus aujourd'hui, parce que finalement on était très focalisé sur Sarkozy-Juppé, on redécouvre un petit peu ce qui était proposé, ça crée un petit peu de discussion au niveau du centre, et puis au niveau des électeurs de gauche qui, à mon avis, vont réaliser quelle soupe mauvaise on leur prépare.
Michel Urvois.
Je suis assez d'accord sur le constat du retour du clivage. Je pense que la primaire accentue ce phénomène-là. Et ça va, mais vous imaginez à quel point ça va être compliqué, si c'est François Hollande, ou que ce soit François Hollande ou Manuel Valls ou quelqu'un d'autre, à quel point ça va être compliqué dans cette primaire de parler à un électorat de gauche. La gauche va devoir se gauchiser comme la droite s'est droitisée. Et vous imaginez, enfin, il ne va pas nous refaire le discours du Bourget, François Hollande. Et s'il le fait... S'il se positionne plus à gauche, il va être absolument pas crédible. Okay, et il va faire qu'élargir l'espace au centre, donner de l'air à Emmanuel Macron et peut-être nourrir les idées de François Bayrou.
Mais Audrey Signeul.
Je suis d'accord, effectivement, après 5 ans d'un quinquennat dont les électeurs de gauche se sont sentis floués parce qu'ils espéraient la gauche et ils ont eu François Hollande et beaucoup s'accordent à dire que c'est pas exactement ça la gauche. Du coup, si comme très souvent une élection interne, ou en tout cas une élection de désignation de candidats, se joue beaucoup justement sur les valeurs fondatrices d'une famille politique. Là, il va falloir ressortir les valeurs de la gauche. Sauf que les valeurs de la gauche, elles sentent l'antimite depuis 5 ans, quoi. Et donc, c'est vraiment compliqué pour eux de ressortir tout ça en disant, mais ça nous appartient, c'est à nous, et d'ailleurs, on va le brandir fièrement, et on va tous discuter. Alors, de tout ça. Je vois pas aussi Tellement comment ils s'en sortent.
Nadège Mangolé, est-ce que finalement, juste encore une question là-dessus, sur le Parti Socialiste, on voit Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron partir chacun de leur côté, sans passer par des primaires. Est-ce que aujourd'hui, le Parti Socialiste, quand Alexis Tsipras a été élu en Grèce, on avait dit, voilà ce qui va arriver au PS avec le PASOK, le fameux Parti Socialiste grec, ça veut dire une faillite. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste est menacé?
En tout cas, c'est ce sur quoi jouent à la fois Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sur différents aspects. Jean-Luc Mélenchon davantage sur le point de vue économique, de la ligne économique, et puis Emmanuel Macron plutôt du point de vue du regard sur l'organisation. Moi, je pense, du coup, j'ose espérer que dans ce débat sur les primaires, on aura peut-être une réflexion sur la manière dont on peut faire de la politique différemment. On peut aussi le voir dans le cadre du renouvellement qu'il y aura et des propositions institutionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on a un enjeu véritable de travail sur les institutions. Vraiment, vraiment très, très, très important.
Alors, n'enlevons pas justement au moins ça à Nicolas Sarkozy. En tant que président des Républicains, il ne voulait pas de primaire. Et au vu de son résultat, on peut comprendre pourquoi finalement. Depuis que cette idée a été lancée dans la vie politique, tout le monde se positionne à ce propos. Tous les anti-primaires deviennent des pro-primaires quand leur candidat gagne. La droite qui était contre quand la gauche a lancé les premières en 2011 s'est finalement ravisée. Un peu comme dans un blockbuster, quand on sort le deuxième, il faut un élément en plus. La gauche ne déroge pas à la règle, puisque l'EPS a obligé presque François Hollande à y participer s'il est candidat, et ça promet un grand moment de surréalisme. Alors la primaire est-elle devenue l'exercice démocratique ultime? Eh bien pas pour Emmanuel Macron.
Je voudrais vous renvoyer 5 ans en arrière. Tout le monde disait que les primaires de la gauche étaient un formidable succès, ce qui était vrai à l'époque. Pourquoi ensuite la gauche n'a pas réussi à gouverner? Parce qu'elle a dû réconcilier des irréconciliables sur lesquels la primaire avait jeté un voile pudique.
Ou des promesses non tenues.
Mais parce que des femmes et des hommes, Arnaud Montebourg était là avant moi, oui, ils s'étaient ralliés à François Hollande, ils n'ont pas la même vision de l'économie, de l'Europe, de beaucoup de choses qui font notre pays aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi véritablement à gouverner ensemble.
Voilà, alors c'était Emmanuel Macron hier donc pour la soirée électorale de France 2. Justement, quand on entend Emmanuel Macron qui parle de ça, Serge Grouard, est-ce que il y a pas finalement une logique, un problème derrière en se disant des gens qui se sont combattus vont se rallier, puis tout le monde va signer un chèque en blanc à celui qui est devant et finalement les différences vont s'aplanir totalement. Est-ce que c'est pas ce qui guette aussi la droite de voir ça, ce que dit Emmanuel Macron?
Je ne le pense vraiment pas, indépendamment de la question des hommes. Pourquoi? Parce que effectivement, je pense que sur ce point, Emmanuel Macron a raison, il y a une fracture idéologique à gauche, qui est très nette qu'il n'y a pas chez nous.
Pourtant,
il y a des sensibilités qui se sont exprimées. On a dit que le projet d'Alain Juppé était un peu plus en demi-teinte, que le projet de François Fillon était un peu plus en rupture. Mais concrètement, on est sur le même axe. Tout le monde a dit que l'on voulait réduire les effectifs de la fonction publique parce que ce n'était pas tenable au regard de nos déficits et de la dette. Après, on a mis le curseur à 500 000, à 300 000. On a eu la question des 35 heures. Tout le monde veut revenir sur ces 35 heures avec des modalités différentes. Donc, on a la même vision, en fait. Après, on a des ajustements avec des sensibilités différentes.
On va en parler justement
alors
de ces ajustements.
Voilà, j'ai ce sentiment qu'à gauche, la gauche n'a pas fait son aggiornamento de ce point de vue-là.
On va en parler de ces ajustements à droite. À faire l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
La mise au point de Matignon après un week-end polémique. Manuel Valls ne démissionnera pas. Il n'y a pas de confrontation possible entre un président et un premier ministre. Il n'y aura jamais de crise institutionnelle. Manuel Valls est rentré dans le rang après avoir laissé entendre qu'il pourrait se présenter à la primaire de la gauche. Le premier ministre a longuement déjeuné ce midi avec François Hollande à l'Élysée. La ministre de l'Éducation nationale annonce la création de 450 postes dans les lycées les plus en difficulté à la rentrée 2017. Najat Vallaud-Belkacem répond ainsi à la mobilisation des enseignants de l'éducation prioritaire, inquiets de leur avenir. La ministre était en déplacement à Marseille aujourd'hui. Il y a 10 jours, plusieurs centaines de professeurs et élèves de lycées en zone prioritaire ont manifesté, notamment à Paris et Marseille. Le parquet national financier se saisit de l'affaire. Une enquête ouverte la semaine dernière. après la diffusion d'un faux communiqué qui a fait dévisser l'action de Vinci en bourse. Mardi dernier, ce texte de presse mensonger d'origine inconnue affirmait que le groupe de BTP avait licencié son directeur financier après la découverte de prétendues erreurs comptables. 1700 vols annulés demain et après-demain chez Lufthansa. Les pilotes reconduisent leur grève après deux jours de pause hier et aujourd'hui. Les négociations salariales sont toujours au point mort. Et puis Armel Lecléache et Alex Thompson au coude à coude dans le Vendée Globe. Le Français a une toute petite longueur d'avance sur le Gallois. Une trentaine de milles seulement. Les deux skippers filent vers l'archipel français des Kerguelen qu'ils devraient aborder par le nord mercredi matin.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce nouvel exercice démocratique, hein, presque devenu indispensable, c'est la primaire, hein, ça marche à chaque fois, ça avait marché à gauche en 2011, ça marche là encore plus de votants pour la droite et le centre hier, hein, plus de 4 millions de votants, de personnes se sont déplacées. Audre Signeux, quand on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, voilà, qui lui ne va pas aux primaires et dit comme Jean-Luc Mélenchon, ça sert à rien les primaires puisqu'on va devoir se ranger derrière, les adversaires d'hier vont se ranger sur le gagnant. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument ?
Je pense que ça peut marcher, mais je pense qu'effectivement, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Et j'ai bien entendu quand Serge Grouard disait que, en gros, il y avait quand même pas de si grosses différences, mais c'était quand même très très bien limité parce que pendant les débats qu'on a vus, les envois de peaux de banane sous les pieds des candidats les uns des autres, c'était quand même quelque chose d'intéressant à voir. Donc je pense effectivement que c'est pas un exercice facile et que mais en même temps, on commence, hein. On n'a pas l'habitude, c'est que la deuxième présidentielle où on se lance dans ce jeu-là. Donc bon, aux États-Unis maintenant c'est rodé. Peut-être que nous dans 10 ans on sera bon. Quoi.
Alors la question qu'on se pose quand même, Michel Urvoy, c'est on avait dit voilà, ça serait Sarkozy contre Juppé au second tour. On s'est tous trompés là-dessus. C'est François Fillon. Donc ça veut dire que ça peut permettre de faire émerger une troisième personne éventuellement. Mais est-ce qu'à votre avis, s'il n'y avait pas eu les primaires, est-ce que François Fillon aujourd'hui serait candidat républicain?
Non, je ne pense pas.
Ouais.
Je ne pense pas. Et même dans le cadre de la primaire, je sais qu'il a songé à abandonner au début de l'année.
Non.
Si.
Non.
C'est le gouvernement.
Non.
Non.
Des arguments comme ça, c'est
précis. Je ne peux pas publiquement donner ma source, mais bon, je sais que quand il était très très bas dans les sondages, bon, mais peu importe, je pense qu'il n'aurait pas émergé, non, c'est sûr. Donc, si vous voulez me faire dire que la primaire permet.
Ça sert à quelque chose.
De faire émerger, ben oui, ça permet de faire sortir des noms quand une formation est incapable par elle-même, en son sein, de dégager un leader et un projet. Mais on a bien vu, Emmanuel Macron a raison, la primaire a quelque chose de pervers, puisque la règle, c'est que les battus se solidarisent avec le gagnant et passent l'éponge sur leurs désaccords. Enfin, passent l'éponge, les désaccords, ils restent. On fait semblant. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à des phénomènes de frondeur, c'est comme ça qu'on arrive à des cassures au moment d'exercer le pouvoir. Donc, mais... D'un autre côté, les Français se sont appropriés ce système. On a bien vu l'engouement suscité par la primaire de la droite et on voit même une participation qui n'est pas limitée à l'électorat en question. On voit des gens de...
Ouais, mais alors là-dessus, je pense que aussi, compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre d'électeurs de gauche qui ont acté il fallait qu'ils passent leur tour pour 2017 et que ça serait un candidat de droite qui l'emporterait. Je pense que le succès de cette primaire est aussi lié au fait qu'un certain nombre de personnes se sont dit que, en allant à cette primaire, ils allaient choisir le prochain président de la République.
Et qu'il était
quasiment certain de gagner. Ils avaient cette idée-là.
Juste poser une question. Nadège Mongoli, c'est vrai que vous avez organisé les premières, hein, en 2011. Là, donc, comme je disais, c'est comme un blockbuster, il en faut toujours plus. Maintenant, vous mettez un président de la République dans la primaire. Est-ce que pour vous, François Hollande, voilà, s'il se présente, on ne sait pas. Hein. Est-ce qu'il a raison de se frotter à cet exercice alors qu'il est chef de l'État ?
Je pense qu'il a raison dans le contexte qu'on connaît. Enfin, on va pas se mentir, il y a quand même eu un quinquennat heurté avec la majorité socialiste. Donc, à un moment donné, je pense même que du point de vue démocratique, à partir du moment où il est critiqué, challengé par un certain nombre de camarades socialistes, et même du point de vue de l'opinion publique dans laquelle, pour lesquels les sondages sont plutôt plutôt mauvais. Je pense que c'est aussi un intérêt pour lui de se présenter, de présenter un bilan en sincérité dans un autre contexte. Et puis, je voulais revenir tout à l'heure sur Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, de leur point de vue, la primaire, c'est pas bon. Ils se voient chacun comme des hommes providentiels. Sauf qu'il y a aussi un problème de culture politique et de culture historique politique. C'est-à-dire que nous, bah effectivement, à droite comme à gauche, on a l'habitude de ces débats et on a l'habitude de trouver des consensus une fois les séances terminées.
Allez, ça, juste avant de rendre l'antenne, Serge Gouard, j'ai une question pour vous. Est-ce que finalement, comme je ne sais pas, je ne connais pas ce statut des Républicains, mais si jamais la droite passe en 2017, est-ce que pour 2022, est-ce qu'il y aura des primaires pour le président élu?
Alors écoutez, on va déjà...
Ah oui,
il faut regarder les statuts.
Est-ce que c'est prévu ou pas? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que PS était prévu?
Écoutez, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne crois pas que ce soit prévu dans les statuts. Quoique je m'interroge.
Allez,
mais ceci étant, c'est vrai que ça pose problème. Quand même, j'entends l'argument, hein, mais ça pose problème qu'un président de la République, imaginez qu'il soit battu.
Oui, sur la légitimité, en fait, c'est ça.
Et il reste président de la République pendant plusieurs mois.
Allez, les informés de France Info vont se terminer sur cette question. Merci beaucoup à Nadège Abamangoli d'être passé ce soir. Merci à Aude Rossigneux. Merci à Serge Grouard.
Merci à vous.
Un petit coup d'œil, Michel Urvois, à Ouest France, demain la une de Ouest
et
France.
Et on s'organise, valse, temporise et puis un papier d'analyse sur les 5 inconnus de la campagne.